Bien-aimé Père, nous bénissons et louons ton Saint-Nom pour l'occasion nous accorder de pouvoir encore nous retrouver pour partager ces quelques moments. Nous sollicitons ta grâce et ta présence, Père éternel, pour nous conduire, sachant, Père éternel, que seule ta parole, ô Dieu, nous aide à croître, Père éternel, jusqu'à la stature de l'homme parfait, Père éternel, ô Dieu. Ainsi, sois-nous favorables, pardonne-nous nos offenses, Père éternel, et agrée-nous en ta présence, Père éternel, pour que tu puisses nous instruire, nous corriger, nous redresser et faire, Père éternel, que notre marche soit droite devant toi et devant les hommes. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Ce jour-ci, on est en train de parler un peu de l'eau et le feu. Et on a vu que ces deux éléments sont indispensables pour la vie ici sur la terre. Et la fois passée, on a vu que la terre et le ciel passent par le processus des baptêmes, tant baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est qu'alors que Dieu va, le Seigneur Jésus-Christ va habiter avec l'homme sur la terre. Parce qu'en fait, la demeure de l'homme est sur la terre. Au ciel, nous irons pour un certain temps, mais Dieu a prévu que la demeure de l'homme est sur la terre. Si on lit dans Apocalypse, on verra que Jérusalem est descendue sur la terre. Nous allons continuer et aujourd'hui, on va parler de Christ qui est l'image du Dieu invisible. On en a déjà parlé, on avait touché un mot la fois passée. On va lire dans Actes, chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'à 39. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Merci, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ici, nous voyons le problème des baptêmes réapparaître. Jean était envoyé pour préparer le terrain pour le Seigneur. Et Jean baptisait du baptême de repentance pour amener effectivement les hommes à être droits devant Dieu. Mais après que Christ soit venu, c'était le baptême d'eau en fait que Jean il baptisait dans l'eau, je voulais dire. Et lorsque Christ est venu, il n'a pas changé le baptême. Le baptême dans l'eau, il ne l'a pas changé, mais il a donné une dimension supplémentaire au baptême. Le baptême se faisait maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute pour le pardon des péchés. Et ceci est le fondement de la vie chrétienne. Donc, le baptême du Seigneur Jésus-Christ englobe le baptême des gens et il a ajouté une autre chose, c'est que le baptême se faisait, je ne sais pas en quel nom Jean-Baptiste est baptisé, mais ici le Seigneur ajoute que le baptême se fera désormais en son nom. Et la raison, c'est pour le pardon des péchés. Parce que la vie n'est pas possible si le pardon n'intervient pas. Ainsi, Christ, en venant, il a apporté une nouvelle alliance. En fait, on était à un point de jonction où on passait de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance. Et ce passage est très important parce qu'il dit se repentir et pardonner les péchés. C'est le point de départ, comme je l'ai dit, de la vie chrétienne. Et la vie chrétienne est une vie de pardon. Nous reviendrons là-dessus, Dieu voulant, lorsque nous parlerons de la dimension de la relation entre l'homme et son prochain. Nous avons vu aussi que dans l'ancienne création, au commencement, il y avait les eaux et l'Esprit de Dieu. On a parlé de ça dans les précédentes fois. Et dans la nouvelle création, il ne peut pas en être autrement. Parce qu'on avait vu que Dieu, lorsqu'il fait une chose d'une certaine façon, il fait la même chose de la même façon. Il ne change pas la manière de faire les choses. Donc, on se rend compte que dans la nouvelle création, le problème de l'eau va se poser. Et aussi le problème de l'esprit, parce que ce sont ces deux éléments qui se trouvaient au commencement. Bien. Donc, lorsqu'on regarde cela, on voit que l'Esprit de Dieu ne vient que là où il y a l'eau. Et l'eau et l'Esprit travaillent ensemble pour manifester la vie. On avait vu ça les fois passées. Et on voit que l'Esprit et l'eau sont d'accord. On verra ça tout à l'heure. On avait vu que l'eau n'est pas la vie, mais sans elle, la vie ne peut pas se manifester. Et si vous vous souvenez, on avait dit que Dieu nous a tirés de l'eau. Parce que si tu regardes, l'eau a été tirée de la terre et nous sommes formés à partir de la poussière de la terre. Donc indirectement, nous avons été tirés de l'eau. Et c'est pourquoi l'eau est importante. Nous verrons ça tout à l'heure, à quoi aussi ressemble, à quoi correspond l'eau. Bien, si on lit dans Jean 1 Jean 5, à partir du verset 5, je disais que l'eau et l'esprit sont en accord. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Remarquez, les trois sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Je lisais dans une autre version, c'est la version Martin. Les choses sont un peu différentes. Je vais lire dans Martin. Pour ceux qui veulent approfondir, ils peuvent aller lire la Bible Martin. Il est dit ceci. « Qui est celui qui surmonte le monde ? Sinon, celui qui croit que Jésus est fils de Dieu. C'est ce Jésus qui est venu par eau et par sang, et non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage. Or, l'Esprit est la vérité. » Jusque-là, c'est bon. Et ici, ça change un peu. Il dit, « Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là ne sont qu'un. » Donc, si on remarque, je ne sais pas pourquoi les autres traductions ont changé la chose, je ne sais pas. Donc, lui, il dit ici, donc il y a trois au ciel. Il y a le Père. Qui d'autre? La parole. Et l'Esprit. Le Saint-Esprit. Et il dit que les trois sont un. Et ceci est juste. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit dans Jean 1, on avait vu ça la fois passée, on va peut-être lire ça. Jean 1. Que je retrouve. On avait lu ça la fois passée, mais c'est toujours mieux peut-être de relire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je ne vois pas un passage où dit « Et la parole se fait chair ». Ça doit être peut-être plus bas. Oui, 14. Donc, si on reprend un peu à partir du 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Donc, la parole qui a été faite chair, on peut ajouter ici la chair, hein. Cette parole qui a été faite chair. Bien. Alors, si nous continuons, et il y en a, donc on revient à un Jean. Donc, on a vu qu'il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là ne sont qu'un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. Donc, sur la terre, on a trois. On a l'Esprit. L'eau. Et le sang. Et les trois ici sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit? L'ordre qui est mis là est très important parce que on peut faire un lien entre les deux. La parole, c'est l'eau, le sang. Et le type alors du Saint-Esprit. Je reviendrai pourquoi le sang est le type du Saint-Esprit et pourquoi l'eau, c'est la parole. Donc, nous voyons qu'il y a une différence entre les versions qui ont été données. Et pourtant, c'est fondamental pour la compréhension de l'unicité et de la divinité de Jésus-Christ. Dans le ciel, il y a le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ils sont un. Sur la terre, il y a l'Esprit, l'eau et le sang. Ils sont d'accord. Je disais que l'ordre a une grande importance. Et si vous remarquez bien, ceci nous rappelle en fait les tabernacles. Je vais légèrement changer. Je garde les mêmes choses, mais je vais mettre le Saint-Esprit ici. Je vous dirai pourquoi je vais mettre le Saint-Esprit au milieu. Parce que ça a une justification. Donc, on a le Saint-Esprit ici. Je ne change que la disposition. Et ici, on a le sang. Et là, on a la parole. Et l'eau. La parole ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hein, c'est Donc, si on regarde avec le tabernacle, on voit que ceci, c'est le lieu très saint. Ça, c'est le lieu saint. Et là, c'est le parvis. Et on sait que le lieu saint, c'est lui qui fait le pont entre le lieu très saint et le parvis. Tu ne peux pas arriver dans le lieu très saint si tu ne passes pas, si tu es au dehors. Tu ne peux pas arriver dans le lieu très saint si tu ne passes pas par le lieu saint. Et ici, on va revenir là-dessus, les sangs, si vous vous souvenez, lors de la formation de l'homme, l'esprit, Dieu va souffler sur la poussière. Et je vous avais dit que la poussière est tirée de l'eau. Vous pouvez lire ça dans Pierre, que la terre a été tirée de l'eau. Donc, la poussière qui forme en fait le corps de l'homme a été tirée de l'eau. Dieu a soufflé dans le corps et l'homme est devenu une âme vivante. Et pour devenir une âme vivante, c'est en fait le sang qui fait le pont. On va voir ça. Donc, on a l'esprit, le sang et l'eau, et les trois sont d'accord. Hein, on a vu ça, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Par contre, le Père, le Saint-Esprit et la parole sont un. Et si vous vous souvenez, le terrestre est l'image du céleste. Ici, nous lisons ce qu'on venait de lire dans Jean. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. C'est pourquoi en lui habitait corporellement. Un mot très important, corporellement. C'est le corps. Vous voyez, corps, corps. La parole habitait corporellement, pardon, c'est pourquoi en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, il n'y avait pas un reste de la divinité qui manquait, qui est resté quelque part. Tout était en lui. Hein? C'est Colossiens 2, 9. Et nous voyons aussi que l'homme a une chair. Le corps, c'est aussi la chair. Mais ici, je vais juste faire remarquer, il faut faire attention lorsqu'on lit dans la Bible « chair et chair ». Parce que la chair, tantôt, il exprime le corps, tantôt, il exprime la vie animale dans l'homme. Donc, il faut vraiment distinguer les choses. Ici, on parle juste de chair comme corps. Nous savons que l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Et ça, on peut lire ça dans Lévitique 17. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Dieu interdit de manger du sang. Parce que le sang, on va voir ça, le sang a un rôle important dans la vie. Dans Lévitique 17, 11, il nous est dit que l'âme de toute chair est dans son sang. Et c'est pour l'âme que le sang fait expiation. Donc, on prend, car l'âme de la chair, donc Lévitique 17, 11, hein, car l'âme de la chair est dans son sang. Ce que nous venons de lire tout au-dessus, il est dit, l'âme de toute chair, c'est son sang. Maintenant, ici, il est dit, l'âme de la chair est dans son sang. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est pour l'âme, dans certaines traductions, on dit par l'âme, car c'est pour l'âme que le sang fait expiation. Donc, le sang est important pour faire l'expiation.
Et ceci nous ramène directement à Christ, hein, que son sang va faire expiation. C'est pourquoi Christ devait venir avec son sang pour faire expiation pour nos âmes, car le sang des boucs et des taureaux ne pouvait faire expiation pour l'âme de l'homme. Ce n'est pas possible. Et ça, on peut voir ça dans Hébreux 10, à partir du premier verset, et puis on va aller au 14. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Hein? » On reprend ici. La parole s'est faite chair. Donc, nous savons que... Oh, pardon. Allons au 14. J'ai failli oublier ça. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est pourquoi on n'a plus besoin d'autre sang. Le sang de Jésus-Christ a fait tout ce qu'il fallait faire. Et on sait que l'âme, c'est ce que je venais de dire là, l'âme est l'union entre le souffle de Dieu et la poussière de la terre, la poussière de la terre qui a été tirée de l'eau. En même temps, nous venons de le voir, l'âme ou le sang, c'est ce qui fait le pont entre l'esprit et le corps. Si tu ôtes le sang d'un corps, il est mort. Il va mourir. Parce que le sang, c'est la vie. Bien. Donc, je disais que le sang fait le pont entre l'esprit et le corps. Comme le lieu saint fait le pont entre le lieu très saint et le parvis. Le sang et la vie, hein, le sang et la vie, comme le Saint-Esprit et la vie, c'est la semence divine. Donc, le Saint-Esprit est la vie de Dieu en Jésus-Christ, mais aussi dans chaque membre de l'Église, je parle de l'épouse. Le sang est par conséquent le type du Saint-Esprit. Le sang alimente tous les corps et le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en quelqu'un, il habite entièrement dans son corps. On reviendra là-dessus. Donc, le sang est le type du Saint-Esprit et l'eau est le type de la parole. C'est pourquoi, lorsqu'on va dans l'ancienne création, il y avait l'eau et le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on commence dans Jean, donc la nouvelle création, on a la parole et la vie qui était en elle. On voit les deux images apparaître. Donc, l'eau est le type de la parole et le sang est le type du Saint-Esprit. Et l'Esprit, qui est la partie la plus intérieure de l'homme, correspond au Père. D'ailleurs, c'est l'esprit en l'homme qui dirige sa vie. Bien. Donc, c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Ça, c'était la naissance terrestre. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Mais pour la naissance céleste, tu dois naître de la parole et de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas, l'eau n'est que le type de la parole. Donc, c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à Nicodème, si tu ne comprends pas déjà quand je te parle des choses terrestres, comment comprendras-tu lorsque je parlerai des choses célestes? Donc, pour venir, pour naître ici-bas, nous naissons d'eau et d'esprit. J'avais abordé ce sujet où, lors de la naissance, il y a toujours l'eau et le sang. Donc, on peut continuer. C'est pourquoi il est important de comprendre ces choses que si on veut naître d'en haut, il faut naître de la parole et de l'Esprit de Dieu. On reviendra sur la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit parce que ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. On ne baptise que ce qui est né. Lorsqu'on naît, ce n'est pas un baptême. Mais on reviendra là-dessus, le Seigneur voulant. Donc, c'est l'eau et l'esprit, ça c'est la naissance terrestre. La parole et l'esprit de Dieu, c'est la naissance spirituelle. Donc, il nous faut mourir à ce monde pour naître d'en haut. D'où l'importance de l'eau. Ici, l'eau. Parce qu'on est né de l'eau, oui, il y a le baptême d'eau qui va intervenir, qui est le type de la mort, en conformité de la mort avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien distinguer les choses. L'eau ne donne pas la vie. Non, l'eau ne donne pas la vie. Mais il est un élément important de la vie. S'il n'y a pas l'eau, la vie n'est pas possible. C'est pourquoi d'ailleurs les scientifiques vont souvent faire Mars ou la Lune pour aller chercher de l'eau. Parce qu'ils se disent, si on trouve des gouttes d'eau, c'est que la vie, soit elle est possible ou elle était possible. Donc, le baptême d'eau typifie la mort avec Christ. C'est une réalité terrestre parce qu'il nous faut mourir en Christ. Et tu nais à la vie de l'esprit. Il n'y a que ce qui est mort qui peut renaître. Donc, comme l'homme est né d'eau en venant ici-bas, c'est la même chose. Il doit naître de la parole pour naître d'en haut. Nous avons vu que le Père, le Saint-Esprit et la parole sont un. Ils sont un. Donc, c'est très, très important de voir cette différence. C'est pourquoi le corps sans esprit est mort et la parole, je vais dire la lettre sans l'esprit de Dieu tue. On lit ça. Donc, il y a le corps et il y a l'esprit. S'il n'y a pas l'esprit, le corps est mort. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit, la lettre est morte. C'est pourquoi on a besoin que Dieu vivifie cette parole. Autrement, la lettre restera morte. Donc, si nous lisons dans 2 Corinthiens 3, à partir de 2 Corinthiens 3, 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je disais tout à l'heure que le Seigneur va dire à Nicodème, dans Jean 3, 12, 15, il dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Celui qui est descendu, il est venu sur la terre, il va rencontrer les réalités terrestres. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et là, on a la réalité céleste. Mais Christ, le Fils, comme on vient de lire, c'est lui qui est descendu. C'est assez, comment dirais-je, ce n'est pas assez facile à comprendre parce qu'il est dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est assez compliqué, mais par la grâce de Dieu, on peut saisir qu'il parle de la même personne. Le Seigneur est venu, il est remonté et il est maintenant au ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ça c'est la réalité terrestre, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, ça c'est la réalité céleste, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, il y a toujours ce parallélisme entre les célestes et les terrestres. Celui qui est descendu, c'est le Fils de l'homme. On le sait, il n'est pas terrestre, il est céleste parce qu'il vient du ciel. Il est Dieu. C'est la parole faite chair. C'est l'image visible du Dieu invisible, car Dieu est esprit. Dieu étant esprit, ça veut dire que sa nature est esprit. Or, au commencement, il est dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux, et donc, Dieu a aussi un esprit. Sa nature est esprit, mais il a aussi un esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit a besoin d'un corps pour demeurer et agir dans le monde physique. C'est pourquoi le Saint-Esprit a habité corporellement dans la parole faite chair. L'Esprit de Christ est donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc le pont entre le Père et la parole faite chair. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans le monde physique. Il n'est pas un représentant de Dieu, non, il est Dieu. C'est tout à fait différent. Le pape est représentant de Dieu, mais Jésus-Christ n'est pas un représentant de Dieu. Il est Dieu. Pour devenir un avec le Seigneur, il nous faut naître de la parole et de l'esprit. C'est pourquoi la parole est indispensable. Elle est indispensable. Il n'y a pas d'autre réalité à cela. Et si tu fais de la parole tes délices, alors Dieu va faire de ton corps son temple, comme lui-même a tabernaclé en Christ. Et dans 1 Corinthiens 3, 16, 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Bien. Donc, je disais que le Père, le Saint-Esprit et la parole sont un. Mais alors, qu'en est-il de l'autre cas où l'Esprit, l'âme et le corps sont d'accord? Comment peut-on comprendre cela? Parce qu'on sait que lorsqu'il s'agit de l'homme, l'homme est composé de trois parties. C'est ce qu'on a, l'esprit, l'âme, qui est le sang. On a vu que l'âme, c'est dans le sang. Et qui est le corps, où je disais que le corps a été tiré de la terre et la terre elle-même a été tirée de l'eau. Pour le Père, le Saint-Esprit et la parole, ils sont un. Donc, il y a une harmonie parfaite entre les trois entités, le Père, le Saint-Esprit et la parole. Il y a une harmonie parfaite. Lisons Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. C'est Dieu. Quand il bouge la main, c'est Dieu qui bouge la main. C'est pourquoi, écoutez bien ceci, c'est pourquoi Christ n'a pas guéri ni prié pour tous les malades. Car il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. C'est capital, ceci, que Dieu puisse nous aider. Ces prières atteignaient toujours le but. Voilà une des raisons pour lesquelles nous connaissons parfois beaucoup d'échecs dans nos prières. Parce que nous prions, nous ne voyons pas exactement ce qu'il faut faire. Le Seigneur, il voyait, avant de faire quelque chose, ce que le Père lui montrait. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous ouvre les yeux pour que nous voyions ce qui se passe réellement, si nous devons prier pour un cas ou pas. Alors, nous aurons l'exaucement à nos prières. Et pour cela, il est capital d'être en Christ et vivant par son esprit. C'est le secret d'une vie d'exaucement. C'est très, très important. Le Seigneur ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est pourquoi ils sont un. L'harmonie est parfaite. Qu'en est-il de l'homme? Ben, l'homme est en quelque sorte aussi un, en quelque sorte. Ton corps, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Mais ces trois entités ne sont pas un comme les trois entités de Dieu sont un. Non. Nous verrons cela dans la suite. À la mort de Jésus sur la croix, nous retrouvons trois réalités, l'esprit, l'eau et le sang. Dans Jean 19, à partir du verset 29, nous lisons « Il y a là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Notez l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, ça c'est le commentaire des éditeurs, il dit c'est-à-dire le vendredi. Ce n'était pas le vendredi. Mais bon, soit. Il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre, homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça les côtés et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Je disais tout à l'heure que le sang et l'eau participent à la naissance. Donc, Jean précise que du sang et de l'eau, des réalités terrestres, sortirent après que Jésus ait rendu l'esprit, l'esprit qui est une réalité céleste. Le sang et l'eau sont des entités présentes lors de la naissance d'en bas. L'eau et le sang sont liés à la naissance. Si on fait maintenant le parallèle entre la première création, donc le premier Adam, et le dernier Adam qui est Jésus-Christ, dans le naturel, l'eau et le sang sortirent après qu'Adam soit endormi. C'est le type de la mort. Pour que la femme puisse naître. Comme l'eau et le sang sortirent de Christ pour que, hein, à sa mort, pour annoncer la naissance de l'Église. Le sang et l'eau sont liés à la naissance. Et ici, le corps du Seigneur, il a été percé. Adam aussi, c'est le côté qui a été percé. Et c'était pour sortir la femme. Et ici, avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour sortir l'épouse, le corps de Christ, qui est une réalité spirituelle. C'est pourquoi il est écrit, je n'ai pas noté la référence, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. » Le premier Adam n'est pas un esprit vivifiant, mais il est une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire qui donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Donc Adam est terrestre. Le second homme est du ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, hein, en venant ici-bas, nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors, qu'en est-il des saints? J'ai regardé un documentaire sur les détergents et ça m'a inspiré à parler du sang de Christ comme un détergent puissant. Maintenant, il faut comprendre comment le détergent agit. La fonction du détergent, c'est quoi? C'est d'arracher la saleté de l'assiette. Mais si tu mets seulement le détergent au-dessus là et qu'il n'y a pas de l'eau, la saleté ne partira jamais. Donc, l'eau est important pour emporter la saleté au loin. Mais le détergent est important pour arracher la saleté de l'assiette. Le principe est le suivant. Le détergent qu'on utilise pour laver les assiettes est hydrophile. Ça veut dire qu'il est ami à l'eau. Mais en même temps, il est aussi ami, ou en tout cas, il attire la saleté. Lorsqu'on utilise les détergents, puisqu'il attire la saleté, il va s'allier à cette saleté. Le but, c'est de l'arracher de l'assiette. Parce que pour nous, l'assiette est la chose la plus importante. Ensuite, par le rinçage à l'eau, celle-ci va emporter avec elle toute la saleté que le détergent a ôtée. Remarquez, c'est l'eau qui joue ce rôle-là. Le détergent détache les taches pour que l'eau l'emporte au loin et rende votre vaisselle propre. Et c'est exactement ce que fait le sang. C'est exactement ce que fait le sang. Qu'est-ce que le sang fait? Il ôte le sang de Christ, hein, pas n'importe quel sang, hein, le sang de Christ. Il ôte, il arrache les péchés de ton être et l'eau de la parole va les emporter au loin dans la mer de l'oubli. C'est exactement le type de détergent. C'est pourquoi la parole est indispensable. Et ici, je répète, ce n'est pas n'importe quel sang. Il s'agit du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang d'un innocent, le sang pur. C'est ce que fait le sang. Mais nous savons que le sang de l'homme est corrompu. Et par conséquent, l'esprit de l'homme est aussi corrompu. Et son corps l'est autant. C'est pourquoi l'esprit de l'homme, son âme et son corps ne sont pas harmonisés. Ils ne sont pas un. Il n'y a pas d'accord entre les trois dans la condition du péché. Dieu est un. Pourquoi? Parce que ce qu'il pense, c'est l'esprit. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est la parole. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ça, c'est ce que le Seigneur, les œuvres que le Seigneur a fait. Et inversement, on venait de les lire avec le Seigneur. Mais il en est tout autrement de l'homme. L'homme peut penser une chose, en dire une autre, et encore en faire une autre. On est désaxé, on n'est pas aligné. Tout est... c'est pas bien. On a en fait sorte de lignes brisées comme ça. Alors que Dieu est comme ça. C'est pourquoi on a des problèmes. Dieu doit nous redresser. Il doit nous redresser. Donc, je disais que pour l'homme, il n'est pas harmonisé. Les trois entités ne sont pas harmonisées. Les trois entités sont désaxées. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sur le même axe. Chaque entité a son axe et il est rare que leurs axes soient alignés. Très rare. C'est pourquoi l'homme est un hypocrite. Il te sourit, mais dans son cœur, il est plein de haine et de ressentiment. Il te bénit de sa bouche, mais dans son cœur, il te maudit et te dit « crève ». Il t'embrasse, mais son cœur est loin de toi. Il loue Dieu, mais il est idolâtre. Il loue Dieu, mais il est adultère. Il loue Dieu, mais il est voleur. Il te tend la main et dans le dos, il te poignarde. C'est pourquoi il a besoin de la vérité, de la parole, pour qu'il soit affranchi et réaligné. Il n'y a que ceux qui sont en Christ qui sont harmonisés dans les trois compartiments de leur vie. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On reviendra probablement une autre fois sur cela. Je vais juste insister sur l'importance de la parole. Mais cela ne suffit pas. On a vu que la lettre tue. Il faut le Saint-Esprit en chacun de nous. Autrement, tout ce que nous faisons ici est vain. Et comme j'ai souligné tout à l'heure, le Seigneur ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir le monde spirituel. Parce que je crois que nous sommes encore aveugles. Et c'est un problème. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Bien-aimé Père, tu es notre seul secours, notre seul refuge. Tu nous as envoyé Jésus-Christ, l'homme parfait, l'homme, ô Dieu de miséricorde, qui a marché sur cette terre et n'a jamais commis de péché. Parce qu'il n'était pas terrestre, il était céleste. Et tu nous appelles à cette vie céleste. Il n'y a que toi qui peux nous amener dans cette dimension. Et merci pour ta parole qui est pour nous secours et soutien. Et merci pour ton esprit, Père, qui nous éclaire et nous guide, Père éternel, ô Dieu. Aide-nous, Père éternel, à comprendre le monde spirituel. Aide-nous à voir les réalités spirituelles, Père. Car nous nous rendons compte, Père, que nous sommes encore aveugles à beaucoup de réalités. Et c'est pourquoi, Père éternel, notre marche est souvent boitillante. Viens nous en aide, Père. Maintenant, ô Dieu, nous recommandons chacun de nous entre tes mains, Père, afin de nous aider dans nos méditations, Père, dans nos vies de prière, ô Dieu, que tu sois attentif à nos supplications, que tu nous viennes en aide, Père éternel, ô Dieu. Reçois honneur, louange et gloire. Alors que nous allons nous séparer, Père, raccompagne chacun de nous, Père éternel, préserve-nous de tout danger et de tout incident fâché. Et s'il y a encore de lendemain pour nous, nous nous reverrons, Père, et certainement nous bénirons ton nom, Père éternel, ô Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, au siècle des siècles. Dans le nom béni de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.